Bienvenue et merci d'écouter les lettres de Gaza. Les lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio du Théâtre du Tiroir, pour donner la parole aux habitants de Gaza qui attendent un cessez-le-feu et la paix sous les bombes. Le 13 février, j'ai reçu de mon ami Ossam Al-Madoun cette lettre qu'il a intitulée « Hôpital ». À Rafah, il n'y a pas de véritables hôpitaux. Seulement 4 centres qui s'appellent hôpitaux, mais qui sont beaucoup moins qu'un véritable hôpital, un peu plus qu'un centre de soins de santé primaire. L'un d'entre eux est réservé aux soins de la mère. La nuit dernière, ma mère est tombée très malade, à nouveau en raison de vomissements incontrôlés provoquant des hémorragies internes. Il s'agit de vomissements ininterrompus mélangés à du sang qui sortent foncés, couleur café, avec des douleurs. Cela a commencé à 6h25 du soir, il n'y avait rien à faire. Il faisait sombre, la peur, les mouvements, tout ça, c'est risqué, très risqué. Pas de sommeil du tout, en attendant le jour. À 6h25, le lendemain matin, je suis allé voir l'infirmier, le voisin qui a aidé à inoculer à ma mère les médicaments dans ses veines. C'est arrivé deux fois depuis mon arrivée à Rafah. C'est la troisième fois. Normalement, dès qu'elle reçoit le médicament, les vomissements cessent. Je n'ai pas trouvé l'infirmier chez lui. Il est en service de nuit à l'hôpital. Il ne reviendra pas avant 10h du matin. Je suis dans une ville inconnue et je n'en sais pas assez. Mais je connais Abu Khaled Abdelal. Je l'ai joint pour lui demander un médecin ou une infirmière pour aider ma mère. Il a immédiatement appelé un ami, un vieil ami, un infirmier expérimenté, Abu Wassi. Au bout de 15 minutes, Abu Wassi était là. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il lui a inoculé le médicament dans sa veine. Les vomissements ont continué. Je pensais que cela prendrait un certain temps avant que cela ne fonctionne, mais cela n'a pas fonctionné cette fois-ci. Il était 11h du matin. Elle continuait à vomir, à saigner. Je n'avais pas le choix. Je devais l'emmener à l'hôpital. L'hôpital n'était pas le meilleur choix, car nous savons tous qu'en raison de l'énorme demande qui pèse sur les hôpitaux, du grand nombre de blessés et de l'effondrement du système de santé, les médecins sont obligés de donner la priorité aux personnes qu'ils doivent soigner. Une femme de 83 ans ne sera pas une priorité. Je suis allé à l'hôpital. Je suis entré dans la salle des urgences. Il est difficile d'expliquer à quoi cela ressemble. Il s'agit d'une salle d'environ 14 mètres par 6 mètres avec 20 lits d'hôpital. Des centaines de personnes sont présentes. Tous les lits sont occupés, de nombreux patients sont à terre. Les médecins et les infirmières se déplacent dans tous les sens pour traiter les blessés et les malades, où qu'ils se trouvent, sur les lits, à terre, dans le couloir. Le sol est très sale. Les aiguilles, les boules de coton, les bandages sont pleins de sang, de saleté, d'eau souillée, ce qui rend l'endroit encore plus sale. Pendant ce temps, deux travailleurs nettoient. Ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux pour ramasser tout ce qu'ils peuvent, mais l'endroit est en désordre. Le bruit est un mélange de cris, de douleurs, de cris de personnes appelant les médecins pour qu'ils s'occupent de leurs proches, de discussions, de bavardages, de sons électroniques, de machines médicales. Après plus de 30 minutes, j'ai enfin pu parler de ma mère à un médecin. Ma mère était dans son fauteuil roulant. Le médecin m'a accompagné pendant que je lui expliquais sa situation et ce qu'on lui donnait. Il l'a regardé, puis s'est approché d'une infirmière pour lui demander de prélever du sang sur ma mère afin d'effectuer des analyses de NFS et de chimie. Il est ensuite parti. L'infirmière était occupée avec d'autres patients et des blessés. Elle est revenue au bout de 20 minutes et a vérifié la tension artérielle de ma mère, puis elle a inséré la canule dans sa veine. Elle a prélevé l'échantillon de sang et nous a demandé de l'apporter au laboratoire. Le médecin est revenu 20 minutes plus tard. Il a examiné la poitrine de ma mère et a demandé à l'infirmière de lui administrer des médicaments par voie intraveineuse. 2 heures plus tard, les résultats de l'analyse sanguine sont revenus. Il y a une inflammation dans son sang. Nous avons besoin d'un médecin spécialisé pour décider du bon médicament. Ils nous ont demandé d'attendre qu'il arrive. Ils ont dit qu'il sera là dans 10 minutes. 1 heure et demie s'est écoulée. Personne ne s'est présenté. J'ai continué à demander des nouvelles du médecin qui était censé s'occuper de ma mère, mais personne n'avait de réponse. Personne ne savait. Il ne savait pas. Peut-être qu'il était dans une autre section, peut-être qu'il était parti. Je l'ai cherché. Cherché dans toutes les sections de l'hôpital, mais je ne l'ai pas trouvé. Pendant ce temps, ma mère devenait de plus en plus faible et fatiguée. Elle voulait partir. Elle ne voulait plus rester dans le fauteuil roulant. C'était tellement douloureux après plus de 3 heures. Finalement, nous avons décidé de partir. Ma mère n'avait pas vomi depuis 1 heure et demie. Nous avons donc espéré une amélioration et décidé de chercher un médecin privé demain. Pendant que j'étais à l'hôpital, 3 personnes blessées sont décédées. 2 étaient gravement blessées, le 3e avait une hémorragie interne, alors que l'extérieur de son corps n'était pas touché. Voilà. Il est 21h32. J'écris ce texte. Ma mère est à nouveau dans son lit. Elle vomit. Elle respire à peine. J'ai reçu cette lettre le 13 février 2024 de mon ami Ossam El Madoun. Et le même jour, il me fait parvenir cette autre lettre, écrite par son ami Baker. Voici la lettre de Kader Baker. Le 111e jour de la guerre, assis dans la tente, avec ma guitare, j'ai commencé à jouer. Tandis que des images de la guerre défilaient dans mon esprit. Les larmes de l'homme qui a perdu 5 de ses fils, la belle dame que j'ai rencontrée une fois et dont je ne sais rien depuis des mois. Est-elle vivante ou enterrée à côté d'autres morts inconnus? Dois-je être jaloux ou en colère? Je ne sais pas. Je deviens fou. Des sentiments indescriptibles. Des vagues de sentiments différents secouent mon cœur, secouent ma tête et mon corps. Rien n'est complet. Il manque quelque chose à tout. Moi, ma musique, ma guitare et le jerrycan d'eau. Mon bébé attendu qui repose encore dans le ventre de sa mère, je te parle maintenant, alors que je n'ai pas les mots ou la langue pour te parler vraiment. Des sentiments manqués, mais un seul sentiment est clair, l'inquiétude. Je n'ai jamais imaginé que je te tiendrais entre mes mains, dans une telle situation, dans une tente secouée par le vent et poursuivie par les balles. J'ai toujours rêvé d'une vie meilleure pour toi. Je pourrais peut-être te protéger du froid, mais je n'ai pas de gilet pare-balles pour empêcher les balles d'atteindre ton doux corps. Ils disent que la guerre se terminera dans quelques jours, mais ce ne sont pas les jours qui passent, ce sont nos vies qui passent. Je suis désolé de ne pas avoir plus de vie à vivre pour toi. Mes excuses, ma fille bien-aimée. Mes excuses pour la malnutrition qui t'est préparée, pour le froid qui t'attend, pour la guerre qui attend ton arrivée. Des excuses pour toutes les peurs qui te parviennent par l'intermédiaire de ta mère. Je t'ai apporté un bonnet de laine. Je le tiens tous les jours. Et je dis, tout passera, tout passera. Désolé, ma chérie, je n'ai pas pu t'apporter des vêtements corrects, ou même des couches. Désolé, je ne peux pas me le permettre. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour cette réalité qui t'attend. Je dois être blâmé pour avoir pensé à être un père à Gaza. Vous venez d'entendre le 7e épisode des Lettres de Gaza. Cette émission n'a qu'un seul but, être le porte-voix des habitants de Gaza sous les bombes. Vous pouvez retrouver le journal quotidien de Hossam El Madoun sur le site internet du journal Histoire Ordinaire. Portez-vous bien et que cesse le feu pour que vive la paix.